Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 6 novembre, avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque jeudi, le journal de l'économie. Et on passe au titre du journal de ce jeudi. Aux États-Unis, succès électoraux pour les démocrates et revers de grande envergure pour Donald Trump et les républicains. L'armée israélienne a montré aux médias présents à Gaza une zone située à la périphérie est de la ville Shijaya, qu'elle affirme être une base des militants du Hamas. En Australie, la présidente des syndicats australiens s'est jointe au commissaire à la lutte contre la discrimination raciale pour réclamer une enquête nationale sur le racisme au travail. Et on passe au journal de ce jeudi. Le candidat démocrate Zoran Mamdani, socialiste et opposant au président Donald Trump, a été élu maire de New York. Il deviendra le 1er janvier le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis. Né en Ouganda dans une famille d'origine indienne et arrivé aux États-Unis à l'âge de 7 ans, Zoran Mamdani a été naturalisé en 2018. Élu local du Queens, il est membre du mouvement des socialistes démocrates d'Amérique. On l'écoute sur Radio France Internationale juste après la confirmation de sa victoire.
Ce soir, contre toute attente, nous avons réussi. L'avenir est entre nos mains. Mes amis, nous avons renversé une dynastie politique.
New York, tonight you have delivered.
New York, ce soir, vous nous avez donné un mandat pour le changement.
A mandate for a
un mandat pour une nouvelle forme de politique.
A mandate
un mandat pour une ville abordable.
And a mandate
et un mandat pour un gouvernement qui tienne parole.
On January 1st,
le 1er janvier, je prêterai serment comme maire de New York.
Après la victoire de Zoran Mamdani, le président américain Donald Trump a déclaré que les Américains avaient le choix entre, je cite, le communisme et le bon sens. Donald Trump n'a pas mentionné directement le nom du nouveau maire, mais a évoqué la victoire historique du Parti démocrate dans son discours. Il a affirmé que l'Amérique avait perdu une part de sa souveraineté suite à cette victoire.
If you want to see what Congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation.
En Virginie, la démocrate Abigail Spanberger est devenue la première femme élue gouverneure, battant la républicaine Winsome Earle Sears dans le New Jersey. La démocrate Mickey Sherrill a, elle aussi, largement remporté son élection et deviendra la prochaine gouverneure. Ancienne pilote d'hélicoptère dans la marine américaine, elle est également classée parmi les modérés du Parti démocrate. L'armée israélienne a montré aux médias présents à Gaza une zone située à la périphérie est de la ville Shijaya, qu'elle affirme être une base des militants du Hamas. Le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré qu'il voulait s'assurer que la zone soit une zone exempte de terrorisme et que le Hamas ne puisse pas y revenir.
An area cannot be rebuilt if it's a terror infrastructure, and you can't build or rebuild an area if there's a tunnel 100 meters deep beneath the house or beneath the rubble. So first of all, we need to make sure this is a tear-free zone and there's no terrorist construction in this area. And then later on, there can be a rehabilitation of that area.
Le président américain a annoncé qu'il ne participerait pas au sommet du G20 en Afrique du Sud à la fin du mois. Donald Trump estime que l'Afrique du Sud ne devrait plus faire partie du G20. Son vice-président, J.D. Vance, devrait toutefois assister à la réunion qui se tiendra du 22 au 23 novembre dans le township de Soweto, près de Johannesburg, lors du G20 en début d'année. Le président américain Cyril Ramaphosa avait appelé les dirigeants à s'unir pour résoudre les crises mondiales. En février, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait fait de même, déclarant qu'il ne participerait pas à la réunion. Marco Rubio avait alors affirmé que sa mission était de promouvoir les intérêts nationaux des États-Unis et non pas gaspiller l'argent des contribuables ou de nourrir l'anti-américanisme. Au moins 9 personnes ont trouvé la mort dans le crash et l'explosion d'un avion cargo UPS survenu près de la plateforme aéroportuaire de la compagnie à Louisville dans le Kentucky. Le gouverneur Andy Beshear a indiqué que le bilan devrait s'alourdir, plusieurs familles étant toujours à la recherche de leurs proches disparus. L'avion s'est écrasé peu après le décollage, percutant 2 entreprises voisines et provoquant de petites explosions. Le gouverneur a décrété l'état d'urgence afin d'accélérer les opérations de secours et a promis une aide aux personnes touchées.
Following yesterday's events, I'm declaring a state of emergency to help us deal with this plane crash. It allows us to move resources more quickly through emergency management and the Kentucky National Guard. It allows state resources to be used also through our agencies to be readily available, including disaster resource management, expenses related to response, and more, as well as reimbursement.
Les images satellites du Soudan ont joué un rôle crucial pour révéler l'explosion de violence provoquée par la prise de contrôle paramilitaire de la région du Darfour occidental. Selon les experts, c'est le seul moyen de suivre l'évolution de la situation dans la région et la ville d'Al-Fasher tombée aux mains des forces de soutien rapide le 26 octobre dernier. On estime que des milliers de personnes ont été tuées lors de massacres généralisés. Les Nations Unies avaient auparavant averti que le conflit au Soudan devenait incontrôlable et appelait les parties belligérantes à se réunir autour de la table des négociations. Le secrétaire général Antonio Guterres a décrit la situation comme un épicentre de souffrance. Plus de 40 000 personnes ont été tuées et 14 millions ont été déplacées depuis le début de la guerre en avril de 2023. En Australie, la présidente des syndicats australiens s'est jointe au commissaire à la lutte contre la discrimination raciale pour réclamer une enquête nationale sur le racisme au travail. Michelle O'Neill, présidente du Conseil des syndicats, affirme que l'enquête Respect au travail de 2018 sur la discrimination sexuelle, dont les 45 recommandations ont toutes été mises en œuvre, constitue un modèle susceptible d'induire un véritable changement en matière de racisme. Elle estime qu'il est temps de mener une enquête similaire sur le racisme au travail.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Environ un logement sur 10 vendu le mois dernier a été acheté par des Australiens ayant bénéficié du dispositif d'apport initial de 5% mis en place par le Parti travailliste pour accéder à la propriété pour la première fois. La ministre du Logement, Claire O'Neill, affirme que cela prouve l'efficacité du programme.
We understand that this was an act of vandalism on the part of someone and that those calls flowed onto Telstra networks.
Voilà, c'était la ministre des Télécommunications, Annika Wells, sur Radio 2GB, parlant des services d'Optus qui ont été rétablis pour les clients de la région de Hunter en Nouvelle-Galles du Sud. L'association Save Our Arts a salué un nouveau projet de loi visant à imposer des quotas de contenu audiovisuel australien sur les plateformes de streaming. David Latham, membre de l'association, souligne que la législation présente des failles potentielles si elle ne garantit pas que les contenus australiens soient inédits, facilement accessibles au public et clairement définis. Il précise que les quotas envisagés sont inférieurs aux exigences réclamées par l'industrie audiovisuelle australienne qui souhaite que les plateformes de streaming internationales réinvestissent au minimum 20% de leurs recettes locales dans des productions australiennes. David Latham ajoute qu'il craint que l'Australie ne devienne un simple décor pour les productions américaines mettant en scène une star australienne afin d'être considérées comme des contenus locaux. Plus de 100 personnes ont péri après le passage du typhon Kalmagei qui a provoqué des crues soudaines et touché terre dans le centre des Philippines. 6 militaires ont également trouvé la mort dans le crash de leur hélicoptère sur l'île de Mindanao lors d'une mission humanitaire. L'Agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que 13 personnes sont toujours portées disparues. Marlon Henriquez, un habitant de la région, décrit le moment terrifiant où les crues soudaines ont frappé. Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, il fera 23 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 25, Hobart 20, Canberra 24, Sydney 25, Brisbane 28, Darwin 34 et à Alice Springs, maximale de 36 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
SBS Audio.
Appuyez sur Play pour être sur la même longueur d'onde.
杨子瑶达利亚, 准备好了吗?
SBS Chill.
SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
SBS Hindi uplabd karvata hai.
Far from the partisan politics.
Avec des actualités en plus de 60 langues, de la musique selon votre humeur et des podcasts captivants en attente d'être découverts. Téléchargez SBS Audio App ou visitez
sbs.com.au/audio.
13h12 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant au journal des sports et vous êtes en compagnie de Marianne Murat.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal des sports de ce jeudi 6 novembre 2025. On va commencer bien sûr avec du football, hein, puisque c'est la fin de la quatrième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, phase de poule qui s'achève en janvier. Et au Parc des Princes, Paris, champion d'Europe, recevait le Bayern Munich, choc des titans 4 mois après leur dernière rencontre en Coupe du Monde des clubs. Eh bien le PSG qui s'est incliné, Cédric De Oliveira était sur place pour Radio France Internationale. On l'écoute juste après le match.
Coup d'arrêt pour ce Paris Saint-Germain qui eh bien, a subi la loi du Bayern Munich au Parc des Princes, battu donc 2-1 les Parisiens dans une rencontre où notamment les 45 premières minutes auraient été totalement à l'avantage des Allemands qui eh bien, ont marqué très rapidement par le Colombien Luis Diaz dès la 4e minute. Luis Diaz qui a profité ensuite d'une erreur du capitaine du PSG Marquinhos pour inscrire un deuxième but. Il y avait donc 2-0 après un peu plus d'une demi-heure de jeu. Les Bavarois qui étaient largement dominateurs face aux Parisiens et Luis Diaz qui ensuite a été eh bien l'auteur d'un mauvais geste, un tacle par derrière face à Hakimi. Hakimi qui est sorti sur blessure, le Marocain, et donc carton rouge pour Luis Diaz et le Bayern Munich qui a joué à 10 contre 11 lors de toute la deuxième période. Paris qui a réduit le score grâce à João Neves. 2-1 pour le Bayern Munich puisque Paris n'est pas réussi à revenir et ce sera un coup d'arrêt. Le Bayern qui est seul en tête de la Ligue des Champions.
Voilà, alors conséquence de ce match fou, eh bien l'infirmerie du PSG qui a reçu ensuite un arrivage massif de joueurs. Babacar Diarra fait le point.
une hécatombe dont les conséquences vont s'étirer à minima jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale, donc le week-end du 22 novembre. Le PSG reste évasif dans son communiqué sur la blessure d'Achraf Hakimi qui a marqué les esprits hier. Il souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche avec une indisponibilité évaluée à plusieurs semaines par le club parisien. Donc c'est flou par rapport à la CAN du Marocain. Le ballon d'or Ousmane Dembélé, sorti précocement en première période, doit aussi s'absenter des terrains pour une période floue en raison de sa lésion au mollet gauche. Et puis à ces deux blessures s'ajoute celle de Nuno Mendes, le latéral portugais, qui a fini le match mais avec une entorse du genou gauche. Cette cascade de blessés auxquels il faut ajouter entre autres Désiré Doué inquiète notre consultant Dominique Sévrac.
Je pense que c'est très embêtant pour le Paris Saint-Germain parce qu'en fait, la répétition, la succession et le fait que ça touche tous les secteurs, on a vu Marquinhos, un défenseur, on a vu João Neves, un jeune milieu, on a vu Ousmane Dembélé, Désiré Doué, des attaquants. Donc aucun secteur de jeu n'est épargné. Cette accélération même de blessés, parce que certains se blessent deux fois, comme Ousmane Dembélé, on peut se dire que ça va être la trame de la saison en fait. Les gens disent, oui, il vaut mieux qu'ils se blessent maintenant, comme ça ils seront prêts en mars ou avril, quand les matchs comptent. Mais en fait, qu'est-ce qui dit que ça ne va pas continuer toute la saison? Rien ne le dit, puisqu'on connaît les causes. Les causes, c'est un calendrier démentiel, c'est d'avoir participé à la Coupe du Monde des clubs, et aujourd'hui ils en payent les conséquences. Donc le PSG va avoir de nouveaux blessés, donc tous les titres du Paris Saint-Germain sont menacés par cette avalanche de blessures.
Pour le reste des affiches, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Dortmund 4-1, et l'autre match très attendu de la soirée, c'était Atalanta-Marseille. Encore une grosse déception pour les Marseillais qui peinent à se faire une place dans cette Ligue des Champions. Défaite 0-1. Plus tôt dans cette quatrième journée, match nul entre Naples et Francfort, 0-0. Victoire d'Arsenal sur le Slavia Prague, 3-0. 3-1 pour l'Atlético Madrid contre l'Union Saint-Gilloise. 4-0 Tottenham contre Prague. Et l'autre choc des titans, Liverpool-Real Madrid. Victoire des Anglais, 1-0. Alors, quel est le classement? On s'y perd. Quel est le classement général de la Ligue des Champions après cette quatrième journée de la phase de Ligue? Eh bien, selon le classement à la mi-parcours, le PSG serait directement qualifié pour les huitièmes de finale en étant pour l'heure à la 5e place, et l'OM serait éliminé, pointant à la 25e place, première place synonyme d'élimination, 25e. Trois équipes ont réussi le sans faute pour l'instant, c'est Munich, Arsenal et l'Inter. On continue avec cet hommage à Charles Coste, le cycliste français plus ancien médaillé d'or olympique encore en vie. S'est éteint à l'âge de 101 ans. Coste était l'un des porteurs de la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. C'était l'un de ses rêves. Son palmarès comprend également sa victoire au Grand Prix des Nations 1949, un contre-la-montre de 140 km où il a battu l'Italien Fausto Coppi. Charles Coste laisse derrière lui un immense héritage sportif, déclaration la ministre française des Sports Marina Ferrari, et on écoute la réaction du triple champion olympique Tony Estanguet.
Oui, c'était un grand homme, effectivement, on est tous un peu tristes ce soir d'avoir perdu le doyen du sport français. C'était une très belle rencontre pour moi, effectivement, quand il m'avait demandé de lui remettre la Légion d'honneur il y a quelques années déjà. Et c'est vrai qu'ensuite, on a continué à beaucoup échanger. On l'a mis à l'honneur pendant les Jeux. Il a porté la flamme, comme vous l'avez dit, une première fois, puis lors de la cérémonie d'ouverture. Et puis ensuite, il a aussi ouvert une session au Vélodrome dans son sport. Et c'est important avec les trois coups qui puissent être mis à l'honneur. Donc jusqu'au bout, il a vraiment profité. C'était un homme assez exceptionnel. C'est forcément une émotion, mais c'est comme ça. Et encore une fois, je pense qu'il faut le mettre un bel hommage parce que c'était un grand monsieur.
On dit un mot de la Melbourne Cup à présent, c'était ce mardi dernier. Victoire du cheval Half Yours sous la pluie et le froid à Flemington. La cavalière Jamie Melham signe là un doublé historique après sa victoire il y a quelques semaines à la Caulfield Cup. Première femme jockey à remporter le titre. En deuxième position de la Melbourne Cup, on trouve Goody Two Shoes devant Middle Earth. Et enfin, en tennis de table, Félix Lebrun, l'un des deux frères, brille au WTT champion de Francfort. Deux heures après sa qualification pour les huitièmes de finale, le jeune français a appris que son adversaire, Manav Thakkar, était forfait pour leur duel. Félix Lebrun, septième mondial, est donc qualifié pour les quarts sans même jouer. Il y affrontera le vainqueur du duel entre Chunsuke Togami, 19e mondial, et Anders Lind, 21e mondial. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce court journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.
13h22 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Faites de sbs.com.au/french votre maison en ligne. Recevez les dernières informations, l'actualité et les divertissements sur sbs.com.au/french. Vous aimez écouter SBS French? Poursuivez la conversation sur notre page Facebook. Aimez-nous et partagez vos pensées. SBS French sur Facebook.
Et comme chaque jeudi, on passe maintenant au journal de l'économie et vous êtes en compagnie de Marianne Murat et de Nicolas Perpich.
Allez, c'est l'économie avec Nicolas Perpich. Nicolas, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous allez nous parler de bonnes nouvelles, mais aussi de mauvaises nouvelles. On va faire les deux. Cette semaine, on va parler de la Banque centrale, Nicolas.
Oui, voilà. Donc là, d'abord, la Banque centrale, cette semaine, a décidé de ne pas changer le taux d'intérêt. Donc, ils ont pas coupé, ils ont pas levé le taux d'intérêt. Donc, ça reste à 3,6%. Et ça, c'était prévu. C'était ce que tout le monde pensait allait se passer. Mais alors, quelles sont les bonnes nouvelles? C'est que, bon, la Banque centrale nous donne d'autres informations économiques. La banque pense que la croissance économique du pays va continuer à peu près 2% chaque année. Donc, assez stable. Et une des raisons principales, ça sera l'investissement dans le marché de l'immobilier avec les gouvernements fédéraux et des États qui essayent de construire à peu près 1,2 million de nouvelles maisons avant la fin de la décennie. Donc, un très grand défi. Donc, il y aurait soi-disant beaucoup d'argent qui est investi dans ce secteur. Donc, ça va aider à stimuler l'économie. Mais aussi, il y a le fait qu'il y a l'annonce du mois dernier que le taux de chômage avait monté à 4,5%. Mais là, selon la banque, ça devrait pas continuer comme ça. Ça devrait baisser et c'est prévu que ça va rester plus bas que les 4,5% pendant au moins les deux années à suivre. Donc ça c'est important aussi. Et sinon, ils pensent que la productivité du pays est en monte aussi. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle et que ça monte plus vite que prévu. Donc aussi ça rajoute à la croissance économique. Donc quelles sont les mauvaises nouvelles? Ben les salaires ne montent pas assez vite. Donc les salaires depuis un long temps en Australie montent très très peu, beaucoup moins vite que l'inflation et d'autres problèmes. Et donc on voit que en ce moment l'inflation est un peu plus haut que ça devrait l'être. Et selon la Banque centrale, ça va rester comme ça pendant assez longtemps. Et donc ils pensent que l'inflation pourrait arriver à 3,7% en juin de l'année prochaine, ce qui est beaucoup trop haut parce que la Banque centrale essaye de que l'inflation reste entre 2 et 3, 3%. Donc ça, c'est aussi bien plus haut que le niveau des salaires, de la hausse des salaires qui monte à peu près 3%. Donc l'inflation est plus haute et plus grande que la hausse des salaires.
Ça veut dire que le pouvoir d'achat des Australiens diminue.
Exactement. Ça veut dire que la pression, cette crise du coût de la vie va continuer, comme on a vu depuis assez longtemps. Donc on peut acheter, voilà, comme tu viens de dire, on peut acheter de moins en moins avec nos salaires, malheureusement. Donc voilà un peu le positif et le moins positif de cette annonce par la Banque centrale cette semaine.
Et les constructions de maisons dont vous parliez sur la prochaine décennie, c'est utopiste ou c'est réaliste?
1,2 million, c'est énorme et ça sera assez extraordinaire pour qu'on arrive à achever ça. Mais bon, c'est le but du gouvernement d'Anthony Albanese et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui doutent ça. Mais c'est nécessaire. En même temps, c'est nécessaire parce que c'est toute une autre histoire que bon, les maisons coûtent beaucoup trop cher et il y en a pas assez.
Et puis surtout si on n'a plus les moyens de les payer. Merci beaucoup Nicolas, on va passer à notre deuxième sujet. C'est la TVA, comme on disait en français. Ici en anglais on dit la GST. Les différents états en Australie, ils ne la payent pas de la même façon. Et elle est distribuée par le Commonwealth. Expliquez-nous.
Voilà, donc il y a tout un système très compliqué de la distribution de la TVA ou la GST. C'est compliqué, mais bon, depuis 2018, il y a eu un accord avec l'Australie occidentale pour que cet État reçoit au moins 75 centimes de chaque dollar de TVA qui est produit dans cet État. Parce que avant, en Australie occidentale, ça avait tombé bien plus bas que ça. Et pendant ce temps, il y a les autres États qui reçoivent, il y en a beaucoup qui reçoivent plus que un dollar pour chaque dollar qu'ils produisent. Et là, toujours, même avec cet accord, l'Australie reçoit le moins de GST de par chaque personne dans l'État de tous les États. Et donc l'Australie occidentale veut garantir que ça reste comme ça, parce que là, le système va être révisé par la Productivity Commission. Et il y a beaucoup d'autres États qui disent que ce système ne marche pas, que c'est pas juste que l'Australie occidentale a ce deal spécial. Donc là, ce qu'on voit, c'est que avant cette réexamination du système par la Productivity Commission, on voit le premier de l'Australie occidentale, Roger Cook, qui est à Canberra cette semaine. Et là, il essaye de faire du lobbying avec le Premier ministre Anthony Albanese pour le convaincre de ne pas changer le système ou l'accord, au moins pour l'Australie occidentale. Et là, on dirait qu'il a eu pas mal de succès. Il y a eu le Premier ministre qui, soi-disant, a dit que oui, cet État devrait continuer à recevoir cette proportion de la TVA. Mais il y a les autres États qui disent ça doit changer, c'est pas juste, nous on reçoit pas assez, et donc on va voir, c'est délicat, non seulement d'un point de vue financier et économique, mais aussi d'un point de vue politique, parce que depuis les deux dernières élections fédérales, l'Australie occidentale a voté pour les travaillistes, pour le parti de Labour de Anthony Albanese. Et c'est sûr que le Premier ministre, lui, il veut pas déstabiliser ça. Il veut pas perdre les votes là-bas. Donc c'est une question, voilà, à la fois politique et économique.
Ouais, grandement politique, économique fondamentalement, mais grandement politique quand même. Il y aurait une autre solution, oui. Ça serait que plutôt que d'enlever le reversement de la TVA au Western Australia, à l'Australie occidentale, faire le même reversement dans les autres États. Mais voilà, comme vous le dites, ce sont des questions grandement politiques. Merci beaucoup, Nicolas. Grandement.
Merci beaucoup, Marianne.
Vous écoutez le programme en français.
Écoutez des histoires inédites sur n'importe quel appareil mobile gratuitement. Visitez sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Audio dès maintenant. Téléchargez l'application SBS Audio aujourd'hui et commencez à écouter tous vos programmes favoris. Obtenez-la gratuitement sur l'App Store ou sur Google Play.
On continue le programme et se focus sur les événements à l'Alliance française de Sydney en cette fin d'année. Et je passe l'antenne à notre collègue François Vantôme.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Nous sommes en compagnie de Denis Morandet, directeur de l'Alliance française de Sydney. Bonjour Denis.
Bonjour François, comment vas-tu ?
Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, nous allons parler du programme du mois de novembre de l'Alliance française qui est très étoffé, hein Denis ?
Oui, un programme très riche. Alors cette année, on célèbre notre 130e anniversaire et on finit vraiment sur les chapeaux de roue. avec différents événements tout au long du mois et même d'autres début décembre.
Alors on va commencer avec le Philo Bistro, qui est un célèbre événement de l'Alliance française de Sydney. Il y a une petite formule particulière pour cette édition du mois de novembre. Hein.
Oui, tout à fait. Petite nouveauté en novembre, en accord avec le modérateur qui est Olivier Vogetta, nous avons décidé de proposer une version exclusivement en anglais. C'est la première fois en 4 ans que ça arrive. L'idée, c'est de simplement élargir un petit peu l'audience du Philo Bistro et de permettre à certaines des personnes qui font partie de notre communauté mais qui n'ont pas forcément un niveau de français suffisant pour suivre une conversation intégrale de Philo Bistro de nous rejoindre avec cette fois une version en anglais.
Et donc ça, c'est le jeudi 13 novembre à 18h15 et l'on s'inscrit directement sur le site internet. Hein.
Exactement, le site de l'Alliance.
Alors, on a aussi une conférence qui a l'air très intéressante sur le thématique de Elon Musk et notre ère néo-féodale. De quoi parle-t-on ?
Alors, nous allons avoir le plaisir de recevoir un historien français, François Cusset, qui va justement explorer un petit peu le personnage Elon Musk, évidemment, mais à travers une vision un petit peu conte médiéval, si tu veux, où on va s'interroger sur un possible retour de la féodalité dans les systèmes qui sont mis en place. Et on a jugé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et de pertinent, compte tenu qu'on est dans une actualité en plein changement. Donc on va parler réseaux sociaux, on va parler indépendance de l'État, on va parler grandes entreprises. Donc je pense que ça va être très très riche et très intéressant.
Est-ce que tu peux nous préciser quand est-ce qu'a lieu cet événement ?
Oui, alors ce sera le lundi 17 novembre à 18h30 et comme pour le Philo Bistro, toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Alliance française de Sydney.
Et là, cette conférence est bien en français ?
Oui, tout à fait.
Alors l'Alliance française, on le sait, est très active, hein, on en a parlé. Elle accueille aussi de nombreux événements en novembre. C'est un petit peu les activités parallèles de l'Alliance française. Alors le 3 novembre, vous accueillez la députée Anne Jeunetet. Pouvez-vous nous préciser un petit peu ce qu'il en est ?
Oui, alors dans notre rôle un petit peu de partenaire de Team France, on a le plaisir d'accueillir Anne Jeunetet, qui est députée des Français de l'étranger, pour sa réunion publique. Donc elle sera le 3 novembre à Sydney, au rez-de-chaussée de l'Alliance. Je sais qu'elle passe, je crois, aussi à Melbourne dans la même semaine. C'est des visites régulières où elle peut rencontrer les membres de sa circonscription.
Alors le 10 novembre, une remise du prix national du civisme pour la jeunesse par l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite. Ça, c'est aussi une très belle initiative.
Hein. Oui, alors c'est en partenariat avec l'Association de l'Ordre national du mérite et le Consulat de France à Sydney. C'est un prix qui a été créé il y a quelques années pour récompenser les jeunes qui s'impliquent dans la société, qui prennent des initiatives pour les communautés. Et donc on est très heureux de pouvoir les accueillir justement pour remettre des prix avec des gagnants de toute l'Australie qui vont nous rejoindre le 10 novembre.
Alors le 20 novembre, c'est la journée internationale du prof de français. Alors Denis, combien de profs de français est-ce qu'il y a à l'Alliance française ?
Alors à l'Alliance française, on a un pool d'enseignants qui évolue entre 35 et 40 professeurs. Et donc à l'occasion de cette journée internationale du prof de français, on leur a préparé une petite surprise qui, j'espère, leur plaira. Mais c'est vrai que pour nous qui sommes avant tout une école de langue et une école de français, c'est toujours un moment sympa dans l'année de pouvoir célébrer tous ensemble nos enseignants.
Le 25 et le 26 novembre, nous avons le hackathon de la FRAN. De quoi s'agit-il ?
Un hackathon, c'est un événement qui rassemble des développeurs. En fait, ils se réunissent pendant plusieurs jours pour travailler ensemble autour d'un projet de programmation ou de création numérique. Et on a le plaisir de les accueillir cette année à l'Alliance. Donc c'est un événement qui se fait en partenariat avec l'ambassade de France et la FRAN, qui est l'Association franco-australienne de recherche et d'innovation. thématique bio-innovation au sein du Pacifique. Donc on va leur, on va les accueillir au 13e étage et ils vont plancher pendant 2 jours sur deux axes principaux, des systèmes alimentaires sains, durables et traçables et les biomédicaments, les services médicaux de nouvelle génération.
C'est un programme très intéressant et nous allons aussi aborder d'autres événements. Vous êtes partenaire de nombreux événements aussi sur Sydney et ses environs. On a une soirée au MCA le 12 novembre.
Hein. Oui, alors dans notre rôle, un peu dans notre volet culturel, on soutient aussi beaucoup d'initiatives. On en organise et on en soutient. Donc on a le plaisir de soutenir au MCA l'association Culture Plus qui organise une film night sur la thématique des océans, sauver nos océans, le 12 novembre. On soutient également avec grand plaisir nos amis de Fans dans le North Shore qui organisent un French Market à Killarney Heights Public School le 16 novembre.
Donc les habitants de Sydney qui souhaitent vous voir, Denis, ou vous rencontrer, eh bien auront différentes opportunités, notamment lors de ce French Market le 16 novembre à Killarney Heights.
Oui, il y aura aussi une autre occasion en décembre, puisque nos amis du lycée Condorcet organiseront aussi leur marché français le 13 décembre. Mais voilà, l'Alliance française est active et présente, donc il y a des possibilités de nous rencontrer partout, hors de nos murs.
Alors il y a aussi une autre activité, Denis, qui concerne particulièrement les enfants ou les personnes qui veulent passer leur diplôme du DELF. C'est aussi au mois de novembre. Hein.
Alors, on est en pleine période d'examen, effectivement, donc le DELF. Alors, pour les jeunes, DELF Prime, DELF Junior, pour les adultes, DELF Tout Public. L'Alliance est le centre d'examen officiel à Sydney pour les examens de langue française. Et là, on est en pleine période d'examen. Donc, on a le plaisir de recevoir énormément de candidats tous les jours, un petit peu stressés. On essaye de les détendre et de les accompagner. Mais en général, ça se passe bien et ils passent leur diplôme de langue française avec nous.
Oui, l'Alliance française qui est une des alliances les plus actives dans le monde. On aura l'occasion d'en reparler longuement dans un prochain épisode, Denis. Mais vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots, c'est un peu une fierté pour vous maintenant d'être dans le top 5 d'Asie, Océanie, dans le top 15 mondial, si je ne me trompe.
Oui, tout à fait. Vous avez d'excellents renseignements. Nous avons eu la chance d'intégrer le top 15 mondial des alliances. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 829 alliances à travers le monde. Et être une des 15 plus grosses écoles de français à travers le monde est vraiment une vraie satisfaction. C'est le résultat d'un long travail. Hein. Tout le mérite en revient à tous les gens qui ont contribué et qui contribuent aujourd'hui. Mais on est très heureux effectivement d'avoir intégré ce top 15 international, puisque ça valide un petit peu tout le travail qui est accompli au quotidien par les équipes.
Voilà, mais bravo en tout cas à l'Alliance française et à vous-même, Denis. On se retrouve très bientôt.
Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.
À bientôt.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.
Trésor. 47 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le gouverneur d'Australie-Occidentale a présenté des excuses pour le rôle de son prédécesseur dans une violente attaque menée par l'État contre des hommes, des femmes et les enfants de la communauté Noongar il y a près de 200 ans, connue sous le nom du massacre de Pinjarra. Les descendants du peuple Binjareb et du peuple Nouma ont reçu les excuses tant attendues, affirmant qu'il s'agissait d'un pas significatif vers la réconciliation. Reportage de SBS News. Avertissement. Les auditeurs aborigènes et insulaires du détroit de Torres sont informés que l'histoire suivante contient des thèmes et un contenu affligeant. À environ une heure de route au sud de Perth se trouve la ville de Pinjarra, en Australie-Occidentale. Site de l'une des premières colonies européennes d'Australie-Occidentale, son emplacement le long de la rivière Murray signifiait que le sol était riche et fertile. C'est dans cette même rivière, en 1834, que le tout premier gouverneur de Western Australia, James Stirling, a dirigé le massacre de jusqu'à 80 personnes des communautés Binjareb et de Noongar. Près de 200 ans plus tard, le 34e gouverneur d'Australie occidentale, Chris Dawson, s'est excusé.
I come with my heart, my court, to say sorry. I come here today to say sorry for the dreadful wrongs perpetrated by the first governor of Western Australia, Sir James Stirling, to Binjareb Noongar people on this budget. To me, that meant telling the truth in all its complexities of the past in order to heal in the present and do all I could to contribute to the growth of trust and reconciliation.
Dans les années 1830, les colons européens autour de Pinjarra se sont heurtés à une forte résistance à leur prise de contrôle colonial qui était assez violente. Voulant envoyer un message fort à ceux qui résistent à leur invasion, le gouverneur colonial James Stirling a mené 25 hommes armés dans la région pour tuer tous les autochtones sur leur chemin. Ils ont encerclé un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants sur les rives de la rivière. Stirling et sa bande d'hommes ont ouvert le feu sur le groupe avant de rassembler et d'enlever les survivants. Chaque année, au mois d'octobre, des groupes se réunissent pour leur rendre hommage. La propriétaire traditionnelle, Carrie Ann Keering, affirme que ces excuses sont un énorme pas en avant.
It's a giant step. It's so significant that, you know, I'm still trying to process it.
Bien que les excuses marquent une étape importante vers la réconciliation, les souvenirs du massacre de Pinjarra persistent. Les noms de lieux dans toute l'Australie occidentale portent encore le nom de Stirling. Des statues aux villes, des écoles aux chaînes de montagnes, le nom de Stirling résonne encore largement dans tout l'État. Liés à cette atrocité terrifiante, nombreux sont ceux qui demandent que ces points de repère soient rebaptisés. Pour Carrie-Anne Keering, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
To all of us now and the upcoming generations, this is not the end where we have completed or what we have completed. What we are doing is the start of a new chapter of working together and to create a memorial for our people.
La cérémonie a été marquée par un échange d'arbres, symbole de la réconciliation en cours. Un olivier cultivé à partir d'un arbre planté par le gouverneur Stirling vers 1835 a été donné au propriétaire traditionnel. En échange, un arbre Jarra des terres de Binjareb sera planté sur le terrain de Government House. Pour le gouverneur Chris Dawson, le temps de la vérité sur le passé est bel et bien arrivé.
I say sorry to the Binjareb people who still feel the trauma of the punishment inflicted on their ancestors that day when so many innocent lives were taken. The time has come and the time is right for the governor to acknowledge the truth of the past actions of a predecessor. I have a deep hope and faith that a process of healing and growth will follow. I believe this action will be a significant step along the pathway to meaningful reconciliation.
Ce reportage de SBS News de Sydney Lang et de Josh Van Staden a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h55 sur les ondes radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Et enfin, l'émission, un rappel des titres du journal de ce jeudi. Aux États-Unis, succès électoraux pour les démocrates et revers de grande envergure pour Donald Trump et les républicains. L'armée israélienne a montré aux médias présents à Gaza une zone située à la périphérie est de la ville Shijaya qu'elle affirme être une base des militants du Hamas. La présidente des syndicats australiens s'est jointe au commissaire à la lutte contre la discrimination raciale pour réclamer une enquête nationale sur le racisme au travail. Et voilà, on se quitte avec Pauline Maudit et le groupe M'Zaza avec Birth and Death of Stars. Merci d'avoir été avec nous. Bel après-midi. À très bientôt sur SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.